Bonjour et bienvenue dans l'atelier du musicien. Vous avez reconnu certainement la sonate à Kreutzer de Beethoven, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout de même, j'espère que vous êtes un petit peu troublé par le fait que cette sonate à Kreutzer que vous avez toujours entendue pour le violon et le piano, vous croyez donc que c'est écrit pour le violon et le piano? Eh bien non, il y a des personnages farfelus dans l'histoire de la musique qui s'emparent de la musique des autres pour en faire autre chose. Bonjour Jérôme Pernaud, bonjour Jérôme Ducrot, vous êtes venu nous jouer, on s'en tiendra au premier mouvement, cette sonate en la majeure opus 47, la 9e des sonates pour violon, dédiée à Kreutzer qui la détestait, qui n'a jamais joué si ma mémoire est bonne. Pourquoi violoncelle et piano?
En fait, c'est Carl Czerny qui a transcrit cette sonate pour violoncelle et piano.
Carl Czerny, élève de Beethoven et lui-même grand pianiste.
Grand pianiste, oui, et qui était très très investi dans l'œuvre et la promotion de l'œuvre de Beethoven s'il en était besoin. Après sa mort, il a même écrit sur les œuvres de Beethoven, etc. Bon, il a fait plusieurs transcriptions de cette sonate pour violon, et là il fait une transcription pour violoncelle qui est une vraie transcription, c'est-à-dire que c'est pas textuellement les notes que joue le violon, il change, il adapte vraiment aux capacités du violoncelle.
Alors, c'est-à-dire, il a changé quoi? La tessiture, j'imagine.
Bien sûr, déjà, tout est une octave plus bas.
La partie de piano reste inchangée, ce qui est quand même sympathique pour les pianistes qui n'ont pas travaillé une deuxième partition. Aha. Donc ça se joue sur la partie de piano normale des sonates pour violon, et simplement c'est dans la partie de violoncelle qu'il y a quelques changements. Et ce que disait Jérôme est vrai, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement une différence de tessiture, mais également il utilise le violoncelle comme... par exemple, instrument de basse, ce que Beethoven ne fait pas, bien sûr, avec le violon, puisque ça n'est pas possible.
Et il a fait ça quand? Après les sonates de l'Opus 102?
Oui, il a fait ça...
À la mort de Beethoven?
Après la mort de Beethoven. Ouais. En tout cas, ça a été publié en 1856. Et voilà, et donc cette transcription a été redécouverte très récemment, enfin, il y a une petite dizaine d'années.
Mais il faut bien resituer les choses dans leur contexte, parce que vous parliez des gens qui s'emparent de la musique des autres et qui la transcrivent.
C'est une habitude de tous les musiciens,
exactement,
les bons et les mauvais.
Et de Beethoven lui-même, oui, qui avait transformé en trio son septuor, qui a peut-être transformé d'ailleurs en quintette cette sonate, on en parlera un petit peu plus loin dans l'émission. Tous les musiciens, les grands comme les petits, transcrivaient tout simplement parce qu'on faisait avec les instrumentistes qu'on avait sous la main, et il était important de pouvoir découvrir toutes les œuvres de la formation la plus petite, c'est-à-dire la sonate, à la formation la plus grande qui est l'opéra. Tout a été transcrit pour des groupes de musique de chambre de telle sorte que dans les salons les gens puissent
découvrir. Et puis alors c'est très important aussi pour la diffusion de la musique à l'époque, oui. de transcrire, ça permet de jouer à la maison avec les instruments qu'on a. C'est une manière de participer à la vie musicale, de s'approprier la musique justement, s'approprier une œuvre d'art, c'est une chose tout à fait de l'époque. Aujourd'hui, on a plus tendance à considérer une œuvre d'art comme une chose qu'il faut absolument pas toucher, alors que la musique à l'époque, vu que de toute façon on ne jouait que de la musique contemporaine pratiquement, on se l'appropriait.
Il faut dire aussi que là, jusqu'à Liszt et Chopin, et surtout Liszt, la séparation entre les pianistes professionnels et les pianistes amateurs, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'œuvres de Haydn ou de Mozart pour des pianistes qui n'étaient pas vraiment des professionnels. C'est le cas pour d'autres instruments aussi. Mais il faut rappeler qu'on est encore dans un monde où les choses ne sont pas tout à fait si figées.
Et même d'ailleurs dans le processus lui-même de la création, le final de cette sonate qui nous paraît aujourd'hui comme un tout indestructible, le final de cette sonate, il faut savoir qu'il avait été composé avant le reste et qu'il était normalement dévolu à la sixième sonate, à la première de l'opus 30, pour violon et piano, qui est dans la même tonalité de la majeure.
Et finalement, il l'a trouvée trop brillante.
Beethoven l'a trouvée trop brillante, donc il l'a remplacée par un allegretto varié dans la sonate en question. Et le jour où il s'est agi d'écrire une sonate très brillante, il s'est dit que ce final ferait fort bien l'affaire. Mais donc, la création n'est pas elle-même continue. Et puis, ne serait-ce que la création de cette sonate, il y a un petit texte assez amusant de Ries qui rend ça assez vivant.
Ferdinand Ries, qui était un élève de Beethoven.
Qui est un élève de Beethoven, et qui a suivi ça de près. Alors, ce n'était pas Kreutzer, en effet, qui jouait cette sonate. Beethoven la lui a dédiée un petit peu plus tard. Au départ, il l'avait écrite pour un certain Bridge Tower, qui était un violoniste polonais à la cour d'Angleterre, deux passages à Vienne en l'occurrence, que Beethoven appréciait bien. Et pour des raisons de, d'après ce que dit Beethoven, de rivalité amoureuse, il a finalement rayé la dédicace à Bridgetower et il a préféré Kreutzer. Mais c'est peut-être aussi tout simplement pour se rapprocher de la cour de Napoléon, parce que c'est l'époque où, où Beethoven avait encore beaucoup d'espoir en Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon.
Il était en train d'écrire l'héroïque, d'ailleurs, qu'il voulait appeler Bonaparte.
Qui était évidemment à ce moment-là encore dédié à Bonaparte. Et donc, le jour de la création, Beethoven avait écrit ça le plus vite possible, mais n'avait pas pris le temps de rédiger la partie de piano, puisque c'était lui au piano et qu'il pouvait tout à fait improviser, notamment le deuxième mouvement. Voilà comment Ries raconte ça. La célèbre sonate en La majeur avait d'abord été écrite pour Bridgetower. Bien qu'une grande partie du premier Allegro fût prête à l'avance, cela n'en alla pas beaucoup plus vite. Bridgetower pressait beaucoup Beethoven parce que le jour de son concert était déjà fixé et qu'il voulait étudier sa partie. Un matin, Beethoven me fit appeler à 4h30 et me dit « Copiez-moi en vitesse la partie de violon du premier Allegro. » Son copiste était occupé ailleurs. La partie de piano était seulement indiqué. Bridgetower fut obligé de jouer le merveilleux thème avec variation en fa majeur, donc ça c'est le deuxième mouvement, sur le propre manuscrit de Beethoven. On n'avait pas eu le temps de le recopier. Beethoven, lui, à ce moment-là, n'avait pas de partition et a improvisé lui-même l'andante et variation.
Alors, sans aller plus loin dans cette sonate, il faut dire tout de même qu'avec cette sonate, on change le modèle qui a été établi par les derniers Mozart de sonate pour violon et piano. Ça devient presque par moment un concerto, c'est extrêmement développé. Et puis, on n'en parlera pas beaucoup parce qu'on s'occupe surtout du premier mouvement. Le deuxième mouvement est un adagio à variation qui montre déjà vers quoi Beethoven va se diriger tout à fait à la fin de sa vie. Mais ça, c'est une constatation qu'on fait tout le temps.
Oui,
tout y est déjà dès le départ.
Oui, c'est ça. Et il pousse vraiment Jean les Pernod. Limites de la forme sonate. Ça devient une énorme chose que les gens ne comprennent pas très bien. D'ailleurs, sur le moment, quand la sonate est jouée, on a l'impression qu'on s'y perd en l'écoutant, à l'époque en tout cas.
Et il a écrit en tête que c'était une sonate dans le quasi comme quasi comme un concerto. Et il faut bien comprendre que c'est un à la fois un concerto pour violon et pour piano, c'est-à-dire une sonate qui nécessite vraiment je suis gêné de dire ça parce qu'on va la jouer, mais enfin qui nécessite deux personnes relativement solides. À cette époque-là pour la jouer, qui est plus demandante que les partitions habituelles de musique de chambre à cette époque-là.
Alors, nanti de ces indications, nous écoutons par vous Jérôme Pernod au violoncelle et Jérôme Ducrot au piano pour l'atelier du musicien. Le premier mouvement de la sonate en La majeure, opus 47, sonate à Kreutzer de Beethoven pour violon et piano, 1802-1803, ici dans le travail qu'a fait Karl Czerny sur cette musique. Est-ce qu'il a conservé les indications comme adagio sostenuto et presto?
Oui, il a tout gardé. Hein. Il y a juste la partie de violoncelle, les notes de la partie de violoncelle qui changent, mais tout le reste. Alors, il a changé quelques articulations, parfois des notes même, pour que ce soit plus pratique. Il y a quelques nuances qui peuvent changer, mais sinon, tout le reste est exactement comme la sonate originale.
Donc, vous allez reconnaître la sonate à Kreutzer, car c'est elle, même si elle a changé de vêtements. Le premier mouvement de la sonate à Kreutzer de Beethoven, rédigé pour le violoncelle par Karl Czerny. Ici, c'était pour l'atelier du musicien Jérôme Pernaud et Jérôme Ducrot. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait des changements d'articulation, des changements de matière pour adapter, non plus à un soprano, mais à une basse. Alors, Jérôme Pernaud.
Oui, alors sur des formules très, très simples en fait, bon, tout ce premier mouvement est assez virtuose au violon, il y a des choses qui seraient très malhabiles au violoncelle en fait, qui pourraient se faire tout à fait, mais qui auraient l'air malhabiles alors qu'en faisant des notes répétées par exemple, au lieu de faire des tierces brisées, ça sonnera beaucoup plus aisé.
Donc c'est une vraie adaptation.
Et le principe, c'est plutôt que l'instrumentiste se sente dans le même état
que s'il était violoniste et qu'il jouait l'original.
Entend les mêmes notes.
Voilà, d'accord. Ce n'est pas la lettre qui compte, mais l'esprit.
Exactement. Et il utilise aussi ce que le violoncelle peut faire et que Beethoven a fait quand il a écrit des sonates pour violoncelle et piano, c'est-à-dire faire les basses. Tout simplement, par exemple, au tout début, quand le piano reprend le thème après le violoncelle l'accompagne, ce qui n'est pas le cas du violon.
Ensuite, le violon, là, cet endroit-là, reprend et accompagne le thème au piano. Mais en effet, sur les premières notes, dans la version originale, le piano joue tout seul. Et là, Czerny profite du fait qu'il a un violoncelle pour renforcer les basses et donner quelque chose
de appui.
Un appui
supplémentaire.
Un peu orchestral d'ailleurs.
Parfois, par exemple, dans le développement, il y a des formules que le violon fait legato et Czerny emploie une formule que Beethoven a employée dans la troisième sonate pour violoncelle. Mmh. Il reproduit à peu près la même chose comme formule d'accompagnement et pour le coup, là, c'est détaché et en bariolage sur trois cordes. Alors, par exemple, dans la troisième sonate pour violoncelle, Beethoven a exactement ça, cette même formule d'accompagnement.
Donc, ce qui est frappant, c'est que Czerny est un homme sérieux, il a une démarche scientifique. Quand il a quelque chose qu'il doit adapter à un autre instrument, eh bien, il va voir si dans le corpus des sonates pour cet instrument, il n'y a pas des solutions. Et c'est le cas ici.
Doit-on exclure, c'est une question que je pose, la possibilité qu'il ait aussi demandé conseil à un violoncelliste au moment de rédiger cette transcription? Ça n'est pas impossible non plus.
On n'a pas de trace du tout qu'il en ait parlé à Beethoven.
Non, parce que lui-même, dans son livre sur les sonates de Beethoven, mais qui est peut-être un petit peu antérieur, ne parle pas de cette transcription qu'il a faite.
Mais ça paraît une évidence, en le jouant au violoncelle, qu'il a fait appel à un violoncelliste.
Il faut mentionner, alors là, ce n'est plus de la transcription qu'il s'agit, mais de l'œuvre elle-même. Le second thème qu'on a entendu, ce thème est peut-être un record dans la petitesse de l'ambitus, c'est-à-dire de distance entre la note la plus haute et la note la plus basse. Souvent, on dit que les thèmes chez Beethoven sont d'une excessive simplicité, voire peu inspirés, mais je dis ça de façon absolument pas péjorative, parce qu'il est justement le maître en la matière, c'est-à-dire faire une merveille de quelque chose qui, a priori, n'est rien. Et là, en l'occurrence, le thème tient dans une carte entre fa dièse et si.
C'est extraordinaire. C'est que ça change quand même le caractère de la phrase.
Absolument.
C'est pas du tout ce qu'on entend dans la version pour violon. C'est quoi la tessiture, évidemment?
C'est beaucoup la tessiture. Il y a plus de matière dans le son du violoncelle, je pense, dans ce genre de phrase. Le violon peut plus facilement être nonchalant que le violoncelle, je suppose. Enfin, les choses sont plus signifiantes. Je pense qu'une note au violoncelle, a priori, est plus signifiante qu'une note au violon, ce qui ne laisse présager en rien de la supériorité d'un instrument sur l'autre. Mais je pense que, du coup, la couleur peut changer. Mais sur
ce un exemple tout de même de changement de caractère, me semble-t-il.
Absolument. Mais c'est aussi dans cette forme où le premier thème et le troisième thème sont plutôt très ébouriffés, même spécialement le troisième, de cette espèce de repos et ce thème qui est fait, comme je l'ai montré, de rien. C'est à rapprocher aussi, peut-être, non pas dans l'esprit, mais dans la simplicité du discours du deuxième thème du concerto de l'Empereur, quand on joue... Des thèmes qui peuvent paraître quasiment enfantins et qui, traités par Beethoven, deviennent miraculeux sans qu'on soit réellement en mesure de dire pourquoi.
Il faut dire sur cette question de la tessiture que, justement, une tessiture très rapprochée, un thème qui tient dans une carte, c'est parfaitement adapté au violoncelle, beaucoup plus qu'au violon, puisque le violon, en fait, sonne bien sur toute sa tessiture. Alors que le violoncelle, évidemment, a une tessiture très grande, mais là où il sonne le mieux, c'est à l'intérieur d'une octave, une octave et demie, exactement dans cette tessiture-là qu'on vient d'entendre. Et justement, Czerny adapte sans arrêt à cause des questions de tessiture. On sent que c'est toujours le principal problème, de faire en sorte que ça tienne finalement dans un ambitus moins grand que celui du violon.
Et donc ça change tout de même considérablement le travail du pianiste, j'imagine, quand on se bat avec un violon et quand on se bat avec un violoncelle, même si vous l'avez dit que vous n'avez pas à apprendre quelque chose d'autre.
Ah mais c'est très différent de toute façon, dans la mesure où les problèmes d'équilibre qui se posent avec le violoncelle se posent très rarement avec le violon, tout simplement pour des raisons de tessiture. Ce qui est haut, on l'entend naturellement, ce qui est dans le médium ou dans la basse, on l'entend beaucoup moins naturellement. Donc forcément, un pianiste ne va pas jouer, même inconsciemment, ne va pas jouer cette sonate absolument de la même façon avec un violon ou avec un violoncelle. Mais ça peut être surtout troublant aussi quand on a l'habitude
de
jouer cette version d'un seul coup, parce qu'il y a même, et c'est peut-être encore plus flagrant dans le deuxième mouvement, que malheureusement on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui, mais c'est peut-être encore plus flagrant, les changements, il y a carrément des ajouts, des suppressions, tout ça reste dans exactement la même musique, mais je veux dire dans la partie de violoncelle par rapport à celle de violon,
l'ornementation,
tout est différent, et même des contretemps qui deviennent des premiers temps, c'est très ingénieux parce que simplement le violoncelle jouant en dessous et risquait de se retrouver en dessous des basses du piano et donc de changer la nature des accords, ce qui n'était pas le cas avec le violon. Donc on sent que tout a été pensé, ça a dû quand même être un gros travail. Et du coup, pour pallier cet inconvénient, Czerny transforme ce qui était des contretemps en premier temps pour que la basse du piano soit en dessous de celle du violoncelle.
Et est-ce qu'il y a des différences d'articulation ?
Oui, il y a énormément d'articulations différentes. On sent quand même qu'il y a une liberté de Czerny de s'approprier l'œuvre, en fait, de changer, de mettre, par exemple, sur le deuxième thème qu'on vient d'entendre, Beethoven avait articulé par quatre mesures, sol, la, sol, fa, et puis sol, la, sol, si, la, sol, fa, alors que Czerny, lui, fait une grande articulation sur huit mesures. Par d'autres endroits, des notes qui vont être détachées vont être plus légato, il va rajouter des points, ou alors il ne va pas... il va pas remettre une nuance que Beethoven a mise, ou alors encore, on va avoir pas mal de changements sur les ornementations ou d'indications. Par exemple, pour un tri, Czerny stipule bien qu'il faut commencer le tri par la note du dessus, alors que Beethoven ne le précise pas.
Mais là, il faut préciser en l'occurrence que ces indications de Czerny qui changent par rapport aux manuscrits ou aux éditions qu'on peut avoir aujourd'hui, ça n'est pas spécialement inhérent à la transcription elle-même, mais à sa vision à la vision que lui avait de cette sonate. Même si elle avait été jouée pour le violon. Il est probable que s'il avait dû faire une édition de cette sonate pour le violon, il aurait aussi mis son grain de sel. La preuve en est le livre qu'il a écrit sur l'interprétation des œuvres avec piano de Beethoven, où il prend pas mal de liberté avec les choses indiquées, en disant que s'il les prend, c'est parce que Beethoven les prenait. Alors ensuite, on peut le croire ou ne pas le croire, mais l'indication est intéressante dans la mesure où nul ne peut nier qu'il a mieux connu Beethoven que nous.
Alors, dans cette forme sonate poussée aux extrêmes, évidemment, il met trois thèmes, ce qui est original à l'époque, évidemment, et d'autant plus que ce troisième thème est particulièrement révolutionnaire dans le sens du coup de poing des sforzando à chaque mesure, l'insistance de ces sforzando qui évidemment, qui sont typiques de chez Beethoven. Czerny lui-même a transcrit cette sonate aussi pour piano à quatre mains. Et on a découvert récemment une transcription vraisemblablement d'époque. Alors on ne sait pas vraiment si elle est de Beethoven ou éventuellement de Ferdinand Ries. Mais en tout cas, c'est une version pour quintette à deux violoncelles, ce qui enrichit considérablement ce répertoire qui n'était fait que de...
D'un grand chef-d'œuvre qui est un peu intimidant.
Et de beaucoup de Boccherini.
Boccherini, oui. Alors, on écoute la réexposition, je crois.
Oui, de ce mouvement, de ce premier mouvement.
Par les Archibaldelli. Thank you. Exposition du premier mouvement de la sonate à Kreutzer de Beethoven dans une transcription pour quintette à deux violoncelles, probablement de Ferdinand Ries, en tout cas d'un contemporain de Beethoven, par l'ensemble Larchi Budelli. Nous étions en compagnie pour cet atelier de Philippe Mercher, Annick Brien, Jean-Pierre Collard et Véronique Kerdiles. Je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute de France Musique et à lundi prochain.